Vous écoutez, on lit pour vous.
Chambly, lutter contre les abus faits aux personnes âgées. Un texte de Julien Dubois, paru le 10 juin 2025 dans le journal de Chambly. Détecter les besoins des personnes âgées est la mission de trois intervenantes couvrant le territoire allant de Carignan à Saint-Césaire. Une partie de leur implication consiste à éradiquer la maltraitance faite aux aînés, dont la Journée mondiale pour la lutte contre celle-ci est célébrée dimanche. La scène peut paraître banale. Une personne âgée compte ses sous à la caisse d'une épicerie pour rendre la monnaie. Derrière, dans la file, les clients s'impatientent et des soupirs se font entendre. La personne peut se sentir brusquée avec un sentiment d'oppression, explique Isabelle Boutin, intervenante auprès des personnes âgées de Marieville à Saint-Césaire. C'est là que commence la maltraitance. Elle peut être verbale, physique, morale, voire financière. Isabelle Boutin est ITMAV, intervenante de travail de milieu auprès des personnes aînées vulnérables. Son but et de répondre aux besoins des personnes âgées grâce à des programmes existants à travers les organismes communautaires essentiellement. Caroline Boisvert s'occupe de Chambly et de Carignan, tandis qu'Alexandra Tessédou couvre Richelieu et Saint-Mathias-sur-Richelieu. Toutes trois assurent que la maltraitance des personnes âgées existe bien sur leur territoire respectif. Ce qui m'a toujours le plus choqué, c'est la fraude amoureuse sur Internet, confie Caroline Boisvert. Cela vient me chercher car on joue sur les sentiments et il n'y a plus cet aspect de raisonnement. Il arrive que les fraudeurs sachent imiter la voix de quelqu'un de l'entourage de la victime au téléphone grâce à l'intelligence artificielle. L'entourage peut tenter de raisonner la victime, mais c'est en pure perte. Cela arrive trop souvent. Plusieurs situations d'abus. En tant qu'intervenante, les trois professionnels aident les personnes âgées et voient leur rôle évoluer en cas de situation d'abus. Il peut y avoir des abus financiers de la part de personnes de l'entourage, continue Caroline Boisvert. Lorsqu'on sait que la victime recevra une visite moins agréable, on s'arrange toujours pour venir avec un service de popote roulante, de travailleur social ou de médecin. Par exemple, on sera là tous les mardis matins. Cela peut empêcher la maltraitance. Après, il faut voir si la situation n'empire pas lorsque nous ne sommes pas là. Mais on ne va pas s'immiscer davantage dans les possibilités d'abus. Nous ne sommes pas médiatrices. Le colportage est une tactique de vente dont se méfient les trois ITMAV. D'ailleurs, plusieurs municipalités l'interdisent à moins d'avoir une permission obtenue par l'administration municipale matérialisée par un badge à montrer aux personnes visitées. Il peut y avoir de la maltraitance involontaire. La personne proche aidante peut tout simplement être à bout. Alexandra Tessédou. Les victimes donnent de l'argent facilement, regrette Caroline Boisvert. D'ailleurs, la régie de police de Richelieu-Saint-Laurent organise beaucoup de conférences à ce sujet tout au long de l'année. Les cas sont nombreux et les potentielles victimes doivent être sensibilisées car on parle de plusieurs milliers de dollars. La prochaine danse est aussi visée par Alexandra Tessédou et ses collègues. Il peut y avoir de la maltraitance involontaire. La personne proche aidante peut tout simplement être à bout et perdre patience. Dans ce cas, nous devons intervenir rapidement, car ce sont désormais deux personnes à soutenir. C'est à nous de pouvoir citer les besoins et ainsi donner les bonnes références vers la communauté. Ainsi, l'objectif des ITMAV et de parcourir le territoire à la recherche de personnes isolées à aider. Cela fonctionne beaucoup par bouche à oreille, insiste Alexandra Tessédou. C'est difficile de nous faire connaître, car nous n'avons pas accès à tous les appartements et nous ne pouvons connaître toutes les personnes isolées. Certaines, d'ailleurs, ne veulent pas d'aide ou sont plutôt casanières. Dans ce cas, nous devons aller à leur rythme pour répondre à leurs besoins, sauf en cas plus urgent. Vidéo en pharmacie. Pour se faire davantage connaître par la population qu'elle vise, Isabelle Boutin a mis sa photo sur les prospectus qu'elle distribue en ville. Je vise les points de rencontre où les personnes âgées vont, comme les pharmacies. Sauf que les prospectus sont peu lus. Nous avons donc participé à un projet avec la Table des aînés afin de diffuser une vidéo dans les commerces pour faire connaître notre rôle et nos services. Le résultat devrait être en service bientôt. Notre objectif est de redonner l'autonomie aux personnes. Nous devons répondre aux besoins, peu importe la manière. Mais reconnaître ses limites en tant que personne âgée afin de demander de l'aide au bon moment est aussi une preuve d'autonomie. L'intervenante du territoire de Chambly et de Carignan précise aussi que le but des ITMAV est d'aider les aînés à bien se sentir chez eux. On cherche à déconstruire l'idée que nous sommes là pour les évincer de leur domicile. Lorsqu'une personne affiche ses craintes, je lui réponds simplement qu'il n'y a pas de place ailleurs. Milieu communautaire présent. La maltraitance des personnes âgées peut aussi se retrouver dans des domaines moins attendus. Je pense que toutes les trois, nous avons un enjeu concernant les transports, rappelle Caroline Boisvert. Si une personne doit se faire opérer de la cataracte, comment fait-elle pour conduire? Il en va de même pour les déménagements. Certaines personnes âgées n'ont personne autour d'elles. Dans leur travail, les ITMAV reconnaissent que le territoire entre Carignan et Saint-Césaire est bien desservi. C'est vrai que l'on peut toujours faire mieux, assure Caroline Boisvert. Néanmoins, nous agissons dans un beau milieu communautaire où règne le respect et une saine collaboration entre les organismes. C'était « Chambly, lutter contre les abus faits aux personnes âgées », un texte de Julien Dubois, paru le 10 juin 2025 dans le journal de Chambly.
Des écoles constatent des effets positifs à l'interdiction des cellulaires. Un texte de Fakia Beg, paru le 9 juin 2025 dans la presse. Roa Akram, âgée de 16 ans, était sceptique lorsque les enseignants de Calgary ont annoncé l'interdiction des cellulaires lors de la première assemblée de l'année scolaire. « Je me suis dit, personne ne va respecter ça », s'est souvenu l'élève de 11e année à propos du changement en septembre. C'est dans la nature des adolescents. On n'aime pas les règles. Les enseignants ne voulaient pas voir de téléphone sur les bureaux ou dans les poches, a ajouté Roa Akram. Ils voulaient qu'ils soient dans le sac à dos, dans le casier, dans la voiture. Elle a expliqué que l'interdiction avait été bénéfique pour certains élèves qui avaient simplement besoin d'un rappel pour se concentrer en classe, surtout lorsque les enseignants parlent. Mais certains ont eu des difficultés. Un enseignant a confisqué le téléphone d'un garçon qui y tenait beaucoup, a-t-elle raconté. Il a commencé à faire des bêtises. Il demandait à tout le monde « Je peux utiliser ton téléphone? Je peux utiliser ton téléphone? J'ai besoin d'aller sur Instagram. » J'ai constaté que les téléphones devenaient une sorte de dépendance. Des effets positifs. Alors que l'année scolaire se termine ce mois-ci, les ministères de l'Éducation du Canada affirment que l'interdiction des téléphones cellulaires a eu des effets globalement positifs. Ils affirment que cela a appris aux élèves à ne pas développer d'attachement malsain à leur téléphone et à se concentrer sur les leçons en classe. L'automne dernier, la plupart des provinces ont adopté des politiques visant à limiter l'utilisation des téléphones cellulaires dans les écoles, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres pays. Avant l'interdiction au Manitoba, la ministre de l'Éducation, Tracy Schmidt, a déclaré qu'une bibliothécaire scolaire s'était plainte auprès d'elle que les élèves étaient trop silencieux assis autour des piles de livres. Les élèves arrivaient en groupe, s'asseyaient à une table ensemble, sortaient leur téléphone cellulaire et ils s'asseyaient tous là. On aurait entendu une mouche voler, a mentionné Mme Schmidt. L'interdiction des téléphones cellulaires a redonné le goût du bavardage et de la socialisation entre les élèves, a-t-elle ajouté. Ils viennent toujours avec leur groupe d'amis, mais maintenant ils sont assis, ils discutent, ils rient. Ils peuvent même jouer à un jeu de société. La bibliothécaire était extrêmement reconnaissante envers la province d'avoir pris cette mesure. Un meilleur environnement d'apprentissage. Le ministère de l'Éducation de l'Ontario a affirmé que les parents et les enseignants estiment que l'interdiction a créé un meilleur environnement d'apprentissage. Alors que nous terminons la première année complète de mise en œuvre, nous continuerons de recueillir des commentaires pour comprendre comment la politique a fonctionné en pratique, où elle a été efficace et où un soutien supplémentaire pourrait être nécessaire, a souligné la porte-parole Emma Testany. En Nouvelle-Écosse, le personnel scolaire a été surpris par la facilité avec laquelle la nouvelle directive a été mise en œuvre, selon Alex Burke, porte-parole en matière d'éducation. Bien que tous les élèves n'aiment pas laisser leurs appareils hors de la salle de classe, les avantages de limiter l'utilisation du téléphone cellulaire sont généralement reconnus et la possibilité de l'ignorer est appréciée, a ajouté M. Burke. Le Conseil scolaire public d'Edmonton, la plus grande division scolaire de l'Alberta, dit n'avoir constaté aucun problème majeur. Les écoles ont eu la flexibilité de déterminer la meilleure façon de mettre en œuvre l'interdiction, qu'il s'agisse d'introduire de nouvelles pratiques ou d'ajuster les pratiques actuelles, a déclaré la porte-parole Kim Smith. De nouvelles techniques sournoises. Selon Roa Akram, l'interdiction ne signifie pas que les élèves n'utilisent plus du tout le cellulaire. Certains sont simplement devenus plus sournois. Un élève a utilisé un manuel pour cacher son téléphone pendant que les professeurs parlaient, a-t-elle raconté. Il regarde des vidéos YouTube pendant tout le cours. Roa Akram a indiqué qu'elle utilisait aussi occasionnellement son téléphone pendant les heures de travail en classe, ses AirPods dans les oreilles, sous son hijab pour écouter de la musique. Lorsque les professeurs confisquent leur téléphone, ils sont généralement remis à la fin du cours ou à la fin de la journée scolaire, a-t-elle ajouté. Roa Akram a expliqué comprendre pourquoi l'interdiction pourrait être nécessaire pour la génération Z et les élèves ayant un attachement malsain à leur téléphone. Nous sommes nés à l'époque où les iPads et les iPhones étaient inventés. Nous avons grandi avec des écrans. Elle ne croit pas que les professeurs seront plus stricts avec l'interdiction l'année prochaine. C'était « Des écoles constatent des effets positifs à l'interdiction des cellulaires », un texte de Fakia Beg, paru le 9 juin 2025 dans la presse.
La criminalité dans le métro de Toronto incite des usagers à prendre leur auto. Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 6 mai 2025 dans Le Devoir. Quand la criminalité investit le métro, les usagers sont-ils tentés d'opter pour la voiture? Oui, soutient Émile Gendreau-Côté, qui a analysé les données d'achalandage des transports collectifs et celles des déplacements automobiles à la suite d'événements violents survenus dans le métro de Toronto. L'étudiant à la maîtrise en sciences économiques de l'Université de Montréal donnera un aperçu des travaux qu'il a réalisés pour mesurer l'effet de la criminalité sur le choix modal des usagers lors d'une présentation mardi dans le cadre du 92e congrès de l'ACFAS. La violence dans le métro a pris de l'ampleur à Toronto dans les dernières années. Depuis 10 ans, il y a eu une augmentation assez constante à Toronto dans le métro. Juste pour les crimes contre la personne, il y a eu une augmentation de 240% depuis 2014, explique Émile Gendreau-Côté. Cascade de crimes. Bousculades, attaques au couteau et agressions sexuelles ont ébranlé la confiance des usagers. En décembre 2022, une femme de 31 ans a été poignardée par un homme qu'elle ne connaissait pas dans la station High Park. Puis, au cours d'une seule semaine de janvier 2023, une femme a été poignardée à de multiples reprises à bord d'un tramway et le lendemain, un adolescent de 16 ans a été poignardé au torse dans un autobus. Par la suite, en mars 2023, un adolescent a été poignardé à mort par un inconnu sur le quai d'une station de métro, relate Émile Gendreau-Côté, qui a tenu compte de ces événements dans son analyse. En examinant les événements violents survenus entre 2019 et 2023 dans le métro de Toronto, l'étudiant a constaté que, dans les 2 semaines suivant la médiatisation d'un crime, l'achalandage dans le métro diminuait de façon importante. Quant à la circulation automobile, elle augmentait dans les 3 semaines suivantes, selon les comptages effectués aux intersections. En revanche, l'effet sur les courses Uber était plutôt limité, a-t-il observé. S'il n'a pas analysé les déplacements à vélo, c'est que les données étaient difficilement accessibles dans la ville reine, souligne-t-il. 240%. Depuis 10 ans, il y a eu une augmentation assez constante de la violence à Toronto dans le métro. Juste pour les crimes contre la personne, il y a eu une augmentation de 240% depuis 2014. L'étudiant n'avance pas de chiffres précis, indiquant qu'il s'agit de résultats préliminaires qui seront bonifiés et précisés. Son étude sera d'ailleurs au cœur de son mémoire de maîtrise qu'il déposera cet été. En janvier 2023, la ville de Toronto a mis en place plusieurs mesures pour tenter d'endiguer la violence dans le métro, dont l'ajout de dizaines de constables spéciaux et l'embauche d'agents de service à la clientèle, ainsi que l'implantation d'un système de messagerie texte pour permettre aux usagers de signaler des événements violents en temps réel. Un sondage paru en février 2023 avait indiqué que 41% des usagers torontois considéraient le réseau de la Toronto Transit Commission, TTC, comme plutôt dangereux ou très dangereux. Parmi les usagers ayant réduit leur utilisation des transports en commun, près d'une personne sur deux a évoqué des préoccupations de sécurité pour expliquer sa décision d'éviter les transports collectifs. Le service de police de la ville de Toronto a observé une légère baisse du taux de criminalité entre 2023 et 2024. Émile Gendreau-Côté n'a pas été en mesure d'étendre ses analyses à cette période, puisque ses recherches se sont arrêtées à 2023. Une étude complémentaire sera nécessaire. Insécurité aussi à Montréal. Si Émile Gendreau-Côté s'est intéressé au métro de Toronto plutôt qu'à celui de Montréal, c'est parce que davantage de données étaient disponibles, notamment en ce qui a trait à Uber. La violence dans le métro de Montréal est peut-être moins intense qu'à Toronto, mais Émile Gendreau-Côté croit qu'il est plausible de penser que des observations similaires pourraient y être faites. En 2024, Richard Martineau a écrit que sa fille avait été agressée dans le métro à la station Lionel-Groulx. C'est sûr que quand un chroniqueur avec un grand lectorat comme ça partage ce genre de nouvelles, ça doit avoir un effet non négligeable. Il y a au moins un certain nombre de personnes qui ont dû se dire « J'éviterai le métro si possible parce que je vois que c'est dangereux. Rappelons que, dans la métropole québécoise, la Société de transport de Montréal a décidé, en mars 2025, d'être moins conciliante avec les itinérants et les flâneurs dans le métro en raison de la hausse du sentiment d'insécurité des usagers. L'obligation de circuler était temporaire et a d'ailleurs pris fin le 30 avril 2025. C'était « La criminalité dans le métro de Toronto incite des usagers à prendre leur auto », un texte de Jeanne Corriveau, paru le 6 mai 2025 dans Le Devoir.
Les Ursulines, premières allumeuses d'étoiles de l'Amérique francophone, un texte de Sébastien Tanguay paru le 14 mai 2025 dans Le Devoir. En toute modestie, presque sans faire de bruit, les Ursulines ont cultivé la connaissance pendant presque 400 ans dans le cœur d'innombrables enfants d'Amérique francophone. Une nouvelle exposition présentée à leur monastère de Québec rend maintenant justice à ces 4 siècles de dévouement tranquille dont les échos se font encore entendre aujourd'hui. Débarquées en 1639 en contrebas du Cap Diamant en compagnie des Augustines, les Ursulines ont semé plus qu'une congrégation religieuse en Nouvelle-France. Ces sœurs capables de 1001 métiers ont surtout planté un idéal éducatif d'une étonnante modernité par et pour les femmes dans une terre que Voltaire réduisait à « quelques arpents de neige ». Leurs premières élèves étaient Wendat et elles ne payaient pas leur éducation au sacrifice de leur culture. Ces oiseaux passagers, comme les appelait Marie de l'Incarnation dans sa correspondance, pouvaient quitter le couvent au gré de leurs coutumes, sans enfermer leur tradition dans un étroit carcan scolaire. Grandir chez les Ursulines, la nouvelle exposition permanente présentée au pôle culturel de leur monastère, fait œuvre de mémoire autant qu'elle rend hommage à ces femmes qui cachaient, sous l'austérité de leur voile, un esprit universel consacré à l'avancement du savoir et des arts. Les Ursulines, ce sont des femmes qui, à travers l'histoire, ont su s'adapter et être à l'écoute des besoins de leur société, explique la directrice de la fiducie du patrimoine culturel des Ursulines, Sophie Limoges. Ce que la recherche nous montre, c'est que ce sont des femmes qui ont toujours essayé d'être à l'affût des dernières avancées, autant sur le plan pédagogique que sur le plan des arts. Allumeuses d'étoiles depuis 400 ans. L'exposition, grâce à quelques 600 artefacts qui peuplaient le quotidien des sœurs jusqu'à leur départ du monastère en 2018, montre à quel point les Ursulines, depuis l'enceinte de leur monastère, ont laissé leur curiosité courir jusqu'aux confins du monde et de la connaissance. Les sœurs, explique Mme Limoges, loin d'être repliées sur elles-mêmes, avaient des antennes aux quatre coins de la planète et se trouvaient au carrefour de leur société. Leur conception humaniste de l'éducation croyait en l'élévation de l'âme humaine par la beauté. Plusieurs chefs-d'œuvre de broderie, de peinture et de paperole témoignent au fil de l'exposition de l'importance de l'esthétisme dans la formation des enfants confiés à leurs soins. Grandir montre que les Ursulines labouraient abondamment le champ des sciences et des arts, enseignant à ses enfants le dessin et le piano autant que l'astronomie et la botanique. Les Canadiennes françaises n'ont pas pu accéder aux cours classiques avant le début du 20e siècle, souligne Mélanie Lafrance, responsable de la recherche et de la diffusion aux archives du pôle culturel du monastère des Ursulines. Elle restait confinée dans un cours plus ou moins avancé, et malgré ces limites-là, les Ursulines essayaient de leur transmettre le maximum de ce qu'elles pouvaient leur offrir. Les Ursulines, comme les enseignants d'aujourd'hui, ce sont des allumeuses d'étoiles, conclut Sophie Limoges. Elles ont éduqué des filles qui ont transporté dans leur propre foyer, par la suite, les valeurs humaines, le savoir-être et le savoir-faire inculqués au monastère. elles ont inspiré des générations de femmes qui ont elles-mêmes ensuite ouvert plein de portes. Une richesse exposée pour la première fois. Grandir s'appuie sur d'innombrables archives et sur des instruments demeurés en parfaite condition malgré des décennies d'utilisation en classe pour illustrer le quotidien à l'intérieur de l'école. C'était un travail en soi, de choisir les pièces à exposer, souligne Mme Limoges. Piéger dans un passé aussi riche et aussi bien conservé relevait de l'exploit. Les Ursulines, au fil de leur présence en terre d'Amérique, ont amassé quelques 50 000 objets et œuvres d'art en plus de constituer une bibliothèque comptant 60 000 ouvrages. À ces quantités déjà prodigieuses s'ajoutent aussi 235 mètres linéaires d'archives qui, mises bout à bout, s'étaleraient sur un demi-kilomètre. Un nouvel intérieur, fruit d'un chantier de 1,5 million de dollars étalé sur 6 mois, permet désormais aux Ursulines de déployer leur histoire dans tout son éclat grâce à des artefacts qui n'avaient jamais pu s'offrir à l'émerveillement du public en raison de conditions de conservation inadéquates. Parmi les inédits aujourd'hui dévoilés, l'autorisation royale signée par Louis XIII et confiée aux fondatrices de la Congrégation avant leur traversée de l'Atlantique à bord du Saint-Joseph, de magnifiques parements d'autels brodés par les sœurs, dont un attribué à Marie de l'Incarnation, ou encore un imposant planétaire héliocentrique du 19e siècle qui n'aurait requis que 2 réparations en autant de siècles d'usage. La richesse de cette histoire contraste avec la disparition annoncée des Ursulines, faute de relève pour poursuivre leur vocation. « Ce n'est pas évident ce qu'elles ont à vivre en ce moment », indique Sophie Limoges. « Cette exposition, je pense, leur apporte un baume. Elles s'apprêtent à clore un chapitre, mais leur mission va se poursuivre autrement. » Les Ursulines entendent léguer leur patrimoine à la société québécoise grâce à une fiducie d'utilité sociale. Même dans leur décroissance, elles songent à la postérité, conclut Mme Limoges. C'est pour ça que nous avons choisi de donner le dernier mot de l'exposition à Marie de l'Incarnation avec sa petite citation « Je ne regarde pas le présent, mais l'avenir ». Parce que c'est ce que les Ursulines continuent de faire 4 siècles plus tard. C'était « Les Ursulines, première allumeuse d'étoiles de l'Amérique francophone », un texte de Sébastien Tanguy paru le 14 mai 2025 dans Le Devoir. «